à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le matin des musiciens avec aujourd'hui la voix du violon baroque italien, la voix du violon est dans le violon. Cette voix est absolument unique, bienvenue à vous et bienvenue à nos invités dont Enrico Onofri, générique.
Umiliato dunque all'altezza vostra elettorale, la supplico di un generoso perdono per la viltà dell'offerta, ma d'un giusto gradimento per la profonda venerazione con la quale imploro la sua gran protezione. Con che le fa umilissima riverenza il primo gennaro 1700. Di vostra altezza elettorale, umilissimo, divotissimo, obbligatissimo servitore, Arcangelo Corelli.
C'est un des plus grands violonistes baroques au monde. On le connaît comme maître du crin pendant des années au sein de la Capella Reial de Catalunya de Jordi Savall ou du Giardino Armonico. Voilà pour les grades, voilà pour le curriculum vitae. Mais l'entendre en concert, c'est une expérience qui dépasse l'entendement, tant ce violoniste recherche précisément par son violon ce qui nous dépasse. Mais à ce jeu de saute-mouton musico-spirituel, on peut ajouter qu'on a très souvent, avec maestro Enrico Onofri, l'impression de voir s'animer devant nous le souffle divin et diabolique décrit par les chroniqueurs du XVIIIe siècle à propos des élans telluriques de ceux qui, comme Tartini ou Veracini, que nous verrons, repoussent les limites de la grâce virtuose avant Paganini. À sa manière, Enrico Onofri est un chaman qui prend nos souffrances et nos joies, qui les capte par l'écoute pour nous permettre qu'une partie de notre âme accède au divin et en soit purifiée. Ce matin des musiciens est placé sous le signe de ce rituel que nous allons accomplir ensemble grâce à vous, Enrico Onofri. Bonjour, buongiorno.
Buongiorno, bonjour.
Comment allez-vous ?
Bien, merci.
Alors merci d'être avec nous parce que vous avez pris un avion très tôt. Francesca Fossati est avec nous pour la traduction. Merci Francesca. Et puis Alessandro Palmeri.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour. Qui sera au violoncelle, un violoncelle tout particulier.
Ah oui.
Je vous dis juste que c'est le seul instrument qu'on ait conservé qui a été joué dans l'orchestre de Corelli à la fin 17e siècle, oui. Quoi, début 18e. Donc on y reviendra avec vous, c'est un événement. Et puis Riccardo Donni, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes au clavecin. Un grand, grand merci à vous d'être avec nous dans ce matin des musiciens. Enrico Onofri, avant d'ouvrir avec Dario Costello, parce qu'on va faire une petite trajectoire du violon, puisque vous avez fait paraître, je crois, il y a quelques années, un disque chez Zigzag Territoire qui s'appelait La Voce nel Violino, c'est-à-dire dans le violon, et pas la voix du violon, mais la voix dans le violon.
Exactement.
Pourquoi ce titre ?
Perché fondamentalmente il violino ha due origini.
Parce que fondamentalement, le violon a deux origines, deux histoires. La première histoire commence au début du XVIe siècle, peut-être à la fin du Ve. C'est une histoire liée à la danse. C'est un instrument qui était lié en plein air pour accompagner la danse. Et à partir de cette origine, s'est développée la tradition du violon qu'on retrouve aujourd'hui dans les films irlandais, par exemple, ou dans la berline populaire.
Al ritmo, agli accenti,
tout ce qui est dédié au rythme, aux accents.
L'altra origine che diciamo quella più colta,
l'autre origine, celle qui est un peu plus cultivée,
è quella legata
privilégiée,
alla voce.
Infatti, c'est celle liée
all'inizio
à la
della
voix.
Sua storia, il violino non ha una letteratura scritta.
Au début de son histoire, le violon n'a pas de littérature écrite.
Portano l'indicazione violino risalgono ai primi anni del 600, anche se sappiamo
les premiers morceaux remontent au 1500. Même si on sait qu'il y en avait avant.
Per esempio a Venezia, alla scuola di San Rocco.
On a des témoignages à Venise, à l'école de San Rocco, au début de 1500.
30 del 500 più o meno.
1530.
Gli strumenti ancora di retaggio tardo médiéval ou comunque rinascimentale.
Là où les instruments qui faisaient partie de l'époque du Moyen-Âge, ces instruments qui sont remplacés à l'improviste.
Lire, cioè degli strumenti che par sono differenti dal violino,
ma en fait, c'était pas vraiment des lire.
Strumenti della famiglia del violino.
C'est des instruments qui appartiennent à la famille du violon.
Il violino era considerato un po' come
à cette époque-là,
per famiglia,
le violon était considéré comme une famille,
c'erano delle
comme
taglie
les flûtes.
Strumentali. Il violino, come lo conosciamo oggi, era il soprano della famiglia.
Le violon, comme on le connaît aujourd'hui, c'était le soprano
di questi strumenti
della famiglia del violon.
Quello che suonavano questi strumenti erano in realtà molto probabilmente brani vocali sacri, quindi motetti.
E ce qu'on jouait avec ça, c'était probablement des morceaux sacrés comme les motets,
le voci, o ornamentando,
des morceaux liturgici.
Quindi facendo degli ornamenti, eseguendo degli ornamenti sulle parti,
avec
sulle
des variations
parti vocali.
Sur les parties vocali.
Per questo che in realtà noi non riscontriamo quasi nessuna differenza dal punto di vista della scrittura.
Et c'est pour ça qu'aujourd'hui
fino a
on ne voit pas de différence
20, 30 anni del 600 tra la musica vocale e
entre la musique vocale
per violino.
Et la musique qui était consacrée
perlomeno
au violon.
Questo fino a quando non comincia a svilupparsi un linguaggio del violino idiomatico dello strumento.
E il linguaggio idiomatico dell'instrument si sviluppa piuttosto.
Che arriva più
au
tardi,
de
che
1600.
È basato sull'aspetto meccanico dello strumento.
E che è basato sull'aspetto più meccanico dell'instrument.
Fino a quel momento c'è una relazione fortissima proprio nella scrittura musicale
tra ciò che
facevano il violino.
Entre la voix et le violon,
per esempio, se noi prendiamo una raccolta importantissima di musiche milanesi dei primi del 600, pubblicata nel 1610.
Che
sono
musique,
i concerti ecclesiastici di Giovanni Paolo Cima,
1610,
che contengono
les
due brani che sono tra i primi brani stampati in cui appare l'indicazione sonata per il violino. Non è la prima, la prima volta, ma
on
è
peut lire
comunque tra
le
prime volte in cui appare questa dicitura.
La première fois sonate pour violon.
Il resto del corpus dei brani contenuti in questa raccolta in realtà sono brani vocali a una, due, tre, quattro voci.
Pour le reste, il ne s'agit que de morceaux
sostanzialmente non c'è differenza nella scrittura tra i brani strumentali
e
i brani vocali.
Il n'y a pas de différence dans l'écriture.
Questo sia, diciamo, nell'aspetto più cantabile, quindi diciamo nel legato, nelle parti più lente, per così dire.
E c'est là dans les parties les plus lentes.
Sia invece nella parte più virtuosistica, quindi anche con note veloci, passaggi, eccetera, eccetera. Quindi la voce in realtà era molto simile a quello che noi pensiamo adesso più strumentale e viceversa.
Comme dans les parties les plus virtuoses.
C'est intéressant parce qu'on va vous entendre tout de suite, messieurs Enrico Onofri, Alessandro Palmeri et Riccardo Donni, dans justement une sonate de Dario Castello, qui était maître de la musique instrumentale donc à Venise dans les années 1620-1630, qui a publié des recueils de sonates dans ces mêmes années. On verra qu'il y a aussi une réflexion sur la sonorité, mais la sonorité dans une église, et que peut-être dans ces sonates, ces proto-sonates, il y a l'idée de construire un véritable espace et que le lien avec la musique sacrée est absolument évident. On aura les explications après avec vous, Enrico Onofri. Mais pour l'heure, Dario Castello, sonata seconda pour violon et basse continue dans le studio 118. C'est à vous. Thank you. Une sonate de Dario Castello interprétée pour nous et pour vous dans Le Matin des Musiciens, dans le studio 118, par le grand violoniste Enrico Onofri, qui nous fait l'honneur d'être avec nous, Alessandro Palmeri au violoncelle et Riccardo Doni au clavecin. Alors cet univers, vous voyez, si vous nous rejoignez dans Le Matin des Musiciens, nous sommes au tout début du XVIIe siècle, dans les années 1620, ce sont les premières sonates concertante qui dialogue, et c'est vrai que c'est une tradition typiquement vénitienne, hein, Castello est vénitien, qui a à voir avec la tradition de la musique sacrée. Et c'est vrai qu'on peut même se dire que ce langage des diminutions, c'est une manière d'appliquer, on va dire, aussi les préceptes expressifs de la contre-réforme, mais avec, non pas la voix, mais avec un instrument. C'est une forme de glose, de verve instrumentale, de rhétorique instrumentale qui est en train de se mettre en place, et c'est ça qui est absolument intéressant. Alors, Enrico Onofri, je ne sais pas quel violon vous jouez actuellement, c'est un violon qui date de quand ?
Un violino italiano anonimo.
C'est un violon italien anonyme.
La data non è conosciuta esattamente, ma fine del XVII secolo, inizio del XVIII secolo.
Fin XVII, début XVIII.
È uno strumento che è stato trovato in stato
originale.
C'est
un instrument qu'on a trouvé dans son état original.
Alors, vous nous disiez en préparant l'émission que cette dimension rhétorique, oratoire, mais au sens oratorio, raconter une histoire sacrée. Finalement, on peut l'entendre, cette sonate que vous avez jouée, exactement sous ce prisme d'un oratorio, mais en réalité joué avec un archet et un violon.
Esattamente, è quello che,
oui,
che succede. In realtà, magari adesso mostrerò
peut-être
qualche
je vais vous
esempio
faire,
dell'inizio della
un
sonata.
Un esempio du début de la sonate.
In cui si può vedere molto in maniera pratica come la sonata ricalchi esattamente gli schemi dell'arte oratoria
antica, schemi dell'art
oratoire
ancien,
quindi la stessa tipo di arte del parlare che utilizzavano gli oratori,
c'est-à-dire
ma anche
l'art du parler qui était utilisé aussi par les prêtres dans les églises pour leurs sermons.
Alors justement, Enrico Onofri, le temps que vous preniez le violon, est-ce qu'on peut entendre justement cet art oratoire mais au violon?
Naturalmente, per capire quello che stavo dicendo,
pour comprendre ce que j'étais en train de dire,
diremo adesso l'inizio di questa sonata nelle
on
varie
va partager
parti
la sonata dans les différentes parties dans laquelle elle est composée.
Abbiamo vari momenti che, come dicevo,
on a des moments différents
che sono gli schemi
qui reproduisent donc les schémas de l'art oratoire.
In retorica si chiama exordium,
on a un exordium,
la presentazione che l'oratore
la présentation donc de l'orateur
se stesso e l'argomento
faite au public
e subito dopo
présenter soi-même
quella che
viene
chiamata narratio in
ensuite,
cui
il y a la narration
a spiegare in dettaglio l'argomento
où il descend plus dans le détail, il explique son discours.
L'exordium in realtà è diviso in due parti.
Et l'exordium il est partagé en deux parties.
È composta da due elementi distinti.
Il y a deux
éléments
una sorta différents.
Di sipario vero e proprio.
La première, c'est vraiment l'entrée d'un en scène.
Che precede l'inizio del discorso.
Precede le début du discours de présentation.
Gentilmente adesso Riccardo, se puoi suonare l'inizio.
Et Riccardo va jouer le début
della parte iniziale dell'exordium.
De la partie initiale de l'exordium.
La presentazione
c'est là, c'est la présentation
segue
de l'orateur.
L'entrata del discorso. Come vedete, abbiamo veramente un aspetto dialettico.
Il y a vraiment un aspect dialectique
all'interno della musica.
Dans la
e,
musique.
Il discorso stesso dell'oratore si può dividere
le discours
in due
de
parti
aussi,
distinte.
On peut le partager
adesso
en
suonerò
deux parties
la
distinctes.
Prima parte che
je vais jouer la première
è una specie
partie,
di saluto.
C'est une sorte de salutation.
La seconda parte invece è la conferma.
La deuxième partie, c'est vraiment la confirmation de ce qui a été dit précédemment.
Questa è l'inizio. E poi
il conferma cela
salendo di
tono. En rejoignant les notes les plus aiguës.
In maniera da concludere l'exordium.
Pour conclure l'exordium.
Dopo l'exordium segue la narratio, cioè il momento in cui l'oratore comincia a raccontare la sua storia.
Donc après la présentation, il y a la narration qui suit et l'orateur commence à raconter son histoire.
E così di seguito tutta la sonata è costruita come
et
un vero
de
e proprio
suite,
discorso.
La sonata è costruita come un vrai discours.
Alors un grand merci à vous Enrico Onofri pour ces explications, mais c'est vrai que pour aller un petit peu en avant dans ce compositeur Dario Castello que vous nous expliquez, donc 1621, 1629 et puis après c'est dans les années 1640, il fait paraître des sonates concertate en style moderne. Il y a déjà quand même cette idée de on laisse la prima pratica
exactement.
Un petit peu derrière. Et puis ce qui est intéressant, c'est que Castello dirigeait un des six pifferi de Venise, c'est-à-dire un groupe de cuivre, cornet, sagoutte, etc. Et il était conscient des difficultés de ses œuvres et des limites de l'instrument. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ces recueils donc, de sonates que vous jouez, il y a aussi des parties extrêmement virtuoses pour la sagoutte, pour les cornets. Sagoutte qui justement ne double pas la basse, mais dialogue d'égal à égal avec une partie de dessus, et que donc... Tout cela relativise aussi l'idée de la sonorité même du violon. C'est-à-dire que la sonorité du violon doit être entendue aussi sous ce prisme de la sagoutte et puis du cornet, quoi.
Esattamente.
Oui, exactement.
Prima di tutto c'è un problema di volume, diciamo un po' un luogo
mais
comune.
Mais tout d'abord, il y a un problème d'ampleur.
Che il violino barocco, in
parce
realtà,
que tout le monde
suoni,
est persuadé
poco,
que le violon baroque,
poco,
il
poco
joue
volume.
Pas assez. Il n'y a pas assez d'ampleur dans le son.
Invece abbiamo la prova che sia le voci che gli strumenti
alors
all'epoca di Monteverdi evidentemente avevano delle sonorità
all'epoca di Monteverdi tous ces instruments avaient des sonorités très puissantes.
Per quanto riguarda le voci, per esempio,
a ce qui concerne le
abbiamo
voix,
un
par
esempio
exemple,
abbastanza interessante in una lettera di Monteverdi che scrive
on peut retrouver dans une lettre de Monteverdi qu'il a écrit au monsieur de Mantoue
un cantante
il lui présente un chanteur
che ha fatto un'audizione per la
qui a fait une audition per il teatro
pour le théâtre et descrive le qualità del cantante
et décrit les qualités du chanteur
dice,
dans cette lettre.
Abbiamo fatto la prova in chiesa
dit, on a fait des
essais
dans l'église
e forte. nella chiesa.
Et sa voix était claire et forte dans l'église.
Et si suppone che la chiesa fosse il Duomo di Mantova,
et on
quindi
pense
una chiesa
qu'il s'agissait
enorme,
du Dôme de Mantoue, qui est quand même une église très grande.
Del Palazzo Ducale, che era Santa Barbara,
ou alors l'église de Santa Barbara, qui était l'église du Palais Ducal.
Una voce piuttosto potente. Poi Monteverdi dice, poi gli abbiamo fatto
la
prova in teatro.
On a fait un essai
et si sentiva anche in teatro
théâtre.
Perfettamente la pronuncia, la voce in tutti i luoghi.
Et la voix était puissante également.
E dice purtroppo la carrozza per Modena, da dove questo cantante arrivava, doveva partire.
Mais
e non
malheureusement,
abbiamo potuto
le carrosse pour Modène a dû partir et on n'a pas pu faire l'essai
quindi,
dans une pièce plus petite.
Quindi evidentemente i cantanti erano in grado di gestire la voce.
Donc les chanteurs étaient capables de gérer leur voix selon les lieux dans lesquels ils chantaient.
È impensabile che un'orchestra composta di due violini, due tiorbe,
et on ne peut pas penser qu'un orchestre
basso,
composé de deux violons,
suonassero e accompagnassero queste voci in chiesa con una sonorità molto minore di quella delle voci.
Ne pouvait pas accompagner se voix avec une sonorité qui n'était pas suffisante.
La ricerca organologica degli ultimi anni ha scoperto sugli strumenti.
Et d'ailleurs la recherche musique nous le confirme.
La qualità, il tipo di corde che si utilizzavano, il montaggio degli strumenti consentiva una potenza.
Les montages des instruments et les cordes utilisées effectivement confirment.
Et giustamente come
che gli strumenti pouvaient être à égal des voix.
Con strumenti che per natura hanno un volume molto più grande come il cornetto e il trombone.
Nous parlions de ce langage virtuose de la sagbout d'Ario Castello joué par les sagboutiers de Toulouse, Daniel Lassalle, dans ce langage très très virtuose pour cet instrument, la sagbout qui est strictement contemporain, et c'est une canzone prima qui est, vous me disiez Enrico Nofri, presque le jumeau ou la jumelle de la sonate que vous avez jouée.
Si, exactement.
Oui,
la sonate que nous avons jouée, la seconde, questa.
Celle qu'on a jouée, c'était la deuxième.
La sagbout est la prima.
Et celle-là, c'est la première.
Alors, vous parliez de Monteverdi. J'avais un petit peu peur parce que c'est vrai qu'on avait un disque très particulier qui est Les Vêpres de la Vierge de Monteverdi dans la version de Jordi Savall avec la Capella Reale de Catalunya 1988, qui est pour vous, Enrico Nofri, votre premier disque. Vous avez 19 ans. Et c'est vrai que, bien sûr, dans les informations qu'on peut glaner ici et là sur votre parcours, sur votre trajectoire, il y a il Giardino Armonico, bien sûr. Il y a la collaboration avec Jordi Savall, bien sûr, comme premier violon. Il y a, bien sûr, l'ensemble Imaginarium. J'aurais dû commencer par là aussi. Mais avant 19 ans, qu'est-ce qui se passe pour vous? Vous êtes né à Ravenne. Et comment, à 19 ans, encore étudiant, vous vous retrouvez à jouer avec Jordi Savall?
Sono i percorsi della vita che delle volte sono
c'est les parcours
sono
de la vie
strani,
parfois
bizarri.
Ils sont bizarres.
In realtà io ho cominciato a suonare il violino
j'ai commencé
molto
a jouer
tardi.
Le violon assez tardivement
a 14 anni.
J'avais 14 ans.
Quindi in realtà quando ho inciso il disco
donc,
di questo
quand j'ai enregistré
vespro,
le disque de ce Vêpres
i concerti li abbiamo fatti che avevo 19 anni il disco
les concerts j'avais 19 ans
successivo.
Et les concerts
quindi,
et le disque c'est l'année successive.
E ho cominciato praticamente da subito a suonare il violino barocco, questo perché avevo
un amico suite, j'ai commencé avec le violon baroque.
Il flauto dolce,
perché j'avais un copain, lui jouait de la flûte.
Mi ha insegnato a suonare il flauto dolce, quindi il passaggio è contemporaneamente stavo già studiando al conservatorio il violino, il passaggio al violino barocco.
Et j'ai étudié au même temps au conservatoire le violon et le passage a été immédiat.
Quello che è successo in questi 5 anni non saprei in questo momento riassumere.
Je sais pas ce qui s'est passé pendant ces 5 années, je m'en souviens pas.
Di fatto a 20 anni mi sono trovato con la Cappella Reale, Jordi
mi ha 20 ans,
mi ha ascoltato in un audizione.
Je me suis retrouvé
invitato
alla Cappella Reale jouer.
C'est vous, Enrico Nofri, au violon, dans votre premier disque en 1988 avec Jordi Savall, la Capella Reial de Catalunya. Et dans ses Vêpres de la Vierge de Monteverdi, 1610, et notamment cette sonate sur Santa Maria à 8, absolument exceptionnelle. Et pour l'heure, merci d'être avec nous dans le Matin des Musiciens, cap vers Corelli. magnifique sonate en fa majeur de l'opus 5, numéro 10 d'Arcangelo Corelli par vous, Enrico Onofri, avec l'ensemble Imaginarium qui est avec nous dans le Matin des Musiciens. Alors c'est vrai que bon, à chaque fois qu'on réécoute cet opus 5 quand même, on se dit waouh. C'est un disque paru chez Passacaille en 2013. Et c'est vrai que dans ce livret, avant de vous entendre dans une des sonates justement de l'opus 5, mais cette fois-ci juste en duo avec Alessandro Palmieri, qui est ici et qui va vous faire entendre, chers auditeurs, un instrument exceptionnel qu'il a de 1685, qui a fait partie de l'orchestre de Corelli. Peut-être deux, trois choses sur l'ornementation. Parce que c'est vrai qu'on se dit que par rapport à la version, et c'est ce que vous dites dans le livret, de 1700 de Corelli, symboliquement 1700, c'est très fort. Plus 5, on change d'époque. C'est vraiment l'héritier de la pratique du 17e. Et puis on regarde vers le futur. Vous dites que donc, dans la version de 1700, paru à Rome, Venise, il n'y a pas d'ornementation écrite, que dans la version, l'édition de 1710 d'Étienne Roger à Amsterdam, là, on a des ornementations qui sont écrites. Mais donc, entre ça, ces deux éditions, et puis aujourd'hui, 2013, on se dit, mais quelle est la bonne position, la bonne posture par rapport à l'ornementation ?
Dunque, credo che è un problema estremamente complesso.
Je crois que c'est un problème assez complexe.
Che le ornamentazioni,
mon avis, che si suppone, c'est que les ornementations Corelli, qu'on pense être de Corelli, publiées à Amsterdam 10 ans après la sortie de 1700, servent pour montrer la manière d'ornementer. C'est un exemple. Mais il ne s'agit pas d'ornementation qu'on va exécuter comme ils sont écrits. Sinon, ils perdent leur sens. Ce que moi j'ai choisi pour cet enregistrement, c'est de faire un mélange entre des ornementations personnelles et celle d'avant. Certaines fois, j'ai suivi celle de Roger et pas d'autres. Mais sans abuser des ornementations, car le disque, c'est pas le concert. Pendant le concert, l'ornementation est plus riche.
Consentire all'ascoltatore di seguire la linea originale di Corelli.
Ça, c'est pour permettre à l'auditeur d'écouter vraiment la ligne de Corelli.
Però senza eseguire la linea così pura, senza ornamentazione, che non avrebbe comunque senso perché non è stata pensata per essere eseguita senza ornamenti.
Alors, c'est vrai que cette ligne, vous disiez, Enrico Onofri, n'a pas été pensée forcément pour être exécutée sans ornement. Et vous dites que cette ornementation, elle n'est pas additive. C'est vrai qu'il faut bien se mettre ça à l'esprit. Ce n'est pas quelque chose qu'on ajoute. Elle fait partie de la ligne. C'est l'électricité de la ligne. On pense toujours ornementation, addition de quelque chose. Mais non, ce n'est pas un calque en plus. Ce n'est pas un vernis du tout. Elle ne doit pas être présomptueuse ni invasive. Et c'est ce que vous dites dans le livret. Et puis à l'opposé, vous parliez de cette pureté de la ligne. Et c'est vrai qu'en préparant ce matin des musiciens ensemble, dans votre livret, vous citez des témoignages contemporains, plus ou moins un petit peu tardifs. Geminiani qui parle de la sonorité de 12 trompettes qui vous a inspiré. Roger North parle de non udite lo parlare di Corelli, c'est-à-dire est-ce que vous entendez vraiment le parler de Corelli ? Mais vous parliez de cette ligne pure. Est-ce que vous n'auriez pas aussi des références extra-européennes ?
Beh, sì, questo è vero, non solo oui, per Corelli.
Vrai. Pas seulement pour Corelli.
La ricerca del suono è stato un percorso
la recherche du son
piuttosto lungo,
a été un parcours très long, surtout en ce qui concerne le répertoire
de
1700.
Corelli rappresenta, diciamo, l'apice finale,
donc, Corelli
rappresente del percorso
l'arrivée
evolutivo,
du parcours évolutif
di questo repertorio.
De ce répertoire.
Non abbiamo una referenza precisa su che cosa significhi.
Non avons pas de référence précise.
La relazione tra voce
sur la relation entre
noi
la voix et le violon.
Non abbiamo mai sentito le voci.
Car on n'a jamais entendu.
Noi
les voix
non abbiamo
de
mai
1600.
Sentito e non sentiremo mai.
Et on les entendra jamais.
Quindi noi non abbiamo un'idea esatta di che cosa fosse. Possiamo
donc on n'a pas une idée
exacte che cosa fosse.
On peut imaginer ce qui c'était.
Però abbiamo una traccia molto importante.
Mais nous avons des traces
nelle culture extra-europee, soprattutto nelle culture
qui ne sont pas européennes,
e soprattutto nella musica
indiana.
C'è una relazione strettissima
la relation est très étroite entre la voix et l'instrument.
Alle volte, ascoltando gli strumenti della musica classica indiana,
elle est tellement étroite
è
che parfois
timbricamente
on a du mal
à
distinguer les voix des instruments.
E quindi questo per me è stato un percorso, un passaggio importante.
Et cela pour moi, ça a été un passage, un parcours très important pour comprendre
la
relation entre les voix et le violon à l'époque.
Naturalmente, tutto questo unito a quello che è la ricerca organologica strumentale.
E cela, bien évidemment, avec la recherche des instruments.
Et donc on écoute ici un des plus grands joueurs de sarangi, c'est quelqu'un que vous connaissez bien par sa musique parce qu'elle vous a beaucoup inspiré, c'est Oustad Sabri Khan. Le grand Oustad Sabri Khan à la vielle sarangi, tradition de l'Inde du Nord hindoustani. Alors c'est vrai que si vous nous rejoignez dans le Matin des musiciens, nous sommes avec Enrico Onofri, Alessandro Palmeri et Riccardo Doni. C'est un événement, l'ensemble Imaginarium. Et alors je me tourne vers vous, parce que pendant que nous écoutions la musique, Alessandro Palmeri est installé donc avec son violoncelle. En réalité, je vous dis violoncelle, mais c'est un violonnet. Ça, c'est la définition exacte. Et je vous le disais aussi en début de Matin des musiciens, c'est un violoncelle qui date de 1685 et qui aurait ou qui a été joué dans l'orchestre de Corelli. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur cet instrument exceptionnel que vous avez, Alessandro Palmeri?
Si, vorrei innanzitutto dire che il termine violone.
Je voudrais d'abord dire que le terme violone
convenzionale.
C'est un terme conventionnel. On l'utilisait à l'époque, on le retrouve dans les écritures de l'époque.
Mais en réalité, c'est difficile de capire quale strumento si usasse.
Mais c'est difficile de comprendre quel instrument on utilisait vraiment. Ça pouvait être le violoncelle,
uno strumento più grande,
ou un instrument plus grand ou plus petit.
Dalle aree geografiche,
ça dépendait aussi des régions, des lieux et de l'époque.
La cosa interessante di questo strumento,
ce qui est intéressant pour cet instrument,
ha mantenuto delle proporzioni, delle misure,
c'est qu'il a gardé des mesures, des proportions
originali.
originel.
Si presenta come un violoncello molto grande.
Il se présente comme un violoncelle très grand.
E le misure sono più simili a quelle di un basso di violino italiano.
Il rassemble plutôt à ce qu'on appelle en italien le basso di violino.
In realtà sono arrivato alla conclusione che il termine giusto per indicare questo strumento.
En realtà, je pense que le mot exact pour définir cet instrument
è proprio violone. Si tratta di un violone romano.
Il s'agit d'un violone, un violone romain.
Il costruttore di questo strumento, che si chiama Simone Cimapane.
Car Simone Cimapane, qui a construit cet instrument.
Era anche un musicista.
C'est un musicien.
E si trova iscritto nelle liste di pagamento, quindi nelle liste.
Il est inscrit dans les listes.
Dei musicisti.
Des musiciens.
Del cardinale Pamphili.
Qui payé au cardinal Pamphili.
Come musico dell'orchestra di Corelli e come suonatore.
Il jouait avec Corelli.
Sia di violone che di contrabbasso.
Et il jouait e la contrabbasse e il violon.
Quindi se è un suonatore di violone e se questo strumento l'ha costruito lui, è molto probabile che in quel periodo a Roma soprattutto questo strumento.
Donc on pense que cet instrument à cette époque-là et surtout à Rome.
E siccome
c'était appelé violone.
A Roma nell'orchestra di Corelli c'erano strumenti di questa grandezza, ma c'erano anche i violoncelli.
Il y avait des instruments de cette taille, mais il y en avait aussi, il y avait aussi des violons
plus petits.
Questa è una chiave
interessante per comprendere forse la differenza tra.
Et ça, ça peut nous aider pour comprendre effectivement la différence entre les deux instruments.
Et strumenti più grandi come il contrabbasso.
Ou des instruments
Infatti,
plus grands comme la contrabbasse.
La particularité di questo strumento è che si trova un po'
sa particularité,
a metà, sia come dimensione
c'est qu'il est
che
vraiment
come sonorità,
entre les deux.
Tra il violoncello e il contrabbasso.
En ce qui concerne les dimensions et en ce qui concerne le son.
Che ha un timbro profondo che forse lo avvicina di più a uno strumento più grave. Quando appunto va nelle note basse, è un timbro invece più.
Surtout quand on descend dans les notes plus basse.
È un timbro più acuto quando va nel registro più alto.
Alors, ce dont on est à peu près sûr, Alessandro Palmeri, il y a un peu une magie qui se passe dans le studio 118 autour de cet instrument que nous avons la chance d'avoir sous les yeux. C'est que Bach, en tout cas, c'est sûr, ne l'a pas entendu, cet instrument que Corelli louit. Mais alors, avant de vous entendre, Alessandro Palmeri, avec Enrico Nofri, je dis bien tous les deux, sans clavecin, dans une sonate de l'Opus 5. C'est vrai que dans l'intitulé de l'Opus 5, Enrico Nofri, ça laisse la possibilité d'imaginer qu'on pourrait, pour quelques sonates, se passer de clavecin, et c'est ce que vous allez faire. Pourquoi alors?
Ma semplicemente credo che all'epoca fossero
tout simplement parce que je pense que à l'époque
fossero abbastanza flessibili per quello che riguardava
il y avait une certaine souplesse
gli strumenti da utilizzarsi
concernant les instruments qu'on
però
pouvait
all'interno
utiliser.
Di uno strumentario ben codificato
mais cela au sein d'un orchestre qui était bien codifié.
Quindi nel frontespizio delle sonate dell'opera 5 abbiamo l'indicazione sonate per violino e violone.
Et par exemple dans la partition on retrouve sonate
cimbalo.
Pour violon ou clavecin.
Quindi è impensabile che fossero tutte solamente per il violone perché
on
abbiamo
pas penser que
le
toutes les sonates étaient écrites pour le violon
scritte nella parte, quindi evidentemente
parce qu'on a des chiffres qui correspondent aussi au clavecin.
Va eseguito, però abbiamo anche l'indicazione violone o cembalo.
Mais
quindi
il y a toujours l'indication violone ou
una possibilità.
Donc, on soupçonne c'était une possibilité.
Nella registrazione delle 12 sonate di Corelli abbiamo scelto di fargli eseguirne almeno una
de Corelli,
in questa maniera.
On a choisi d'en jouer au moins une de cette manière.
Et c'est très intéressant parce que c'est vrai que du coup la partie de violoncelle dialogue d'égal à égal avec la partie de violon, donc violon et violone, c'est un événement sur France Musique. Enrico
Sì, perché è vero che in realtà non è una parte di basso continuo semplice.
Il ne s'agit pas d'une partie de basse continue simple.
Ma è un vero e proprio contrappunto, quindi è una sonata a due parti, sono due parti uguali.
Avec deux parties qui sont exactement pareilles.
Enrico Onofri au violon et Alessandro Palmeri au violonnet, cet instrument qu'il nous a décrit dans le studio 118 dans cette sonate en fa majeur de l'opus 5. La numéro 10, et c'est à vous.
Thank you.
Enrico Onofri au violon et Alessandro Palmeri au violon et au violoncello, ce violoncelle unique, dans le studio 118, dans cette sonate de l'opus 5, la numéro 10, d'Arcangelo Corelli, recueil mythique de 1700. Un grand merci à vous, messieurs de l'ensemble Imaginarium, d'être avec nous, Enrico Onofri, et surtout tous ces parallèles que vous dressez entre toute cette subjectivité de l'époque. Et il y en a une, évidemment, de subjectivité très forte, modèle contre modèle, puisque le modèle corélien est un modèle apollinien de perfection absolue. Bah, c'est qu'est-ce qu'un contemporain de la trempe de Vivaldi fait en héritant de cette sonate en trio, ou sonate pour violon et continuo de Corelli, mais avec son style, c'est-à-dire le visage d'un Vivaldi un petit peu corellianisé, mais qui reste quand même lui-même, Vivaldi. Et vous avez justement enregistré quelques sonates de l'opus 1 et de l'opus 2, donc de 1709, je crois, au Vivaldi à une trentaine d'années. Comment vous décriez justement cette musique de Vivaldi qui s'empare du modèle de Corelli ?
C'est molto interessante et anche unico il percorso.
C'est très intéressant
vivaldiano.
Et surtout c'est vraiment unique le parcours de Vivaldi.
Molta musica che si ispira a Corelli.
On a beaucoup de musique qui s'inspire à Corelli après la publication de l'opus 5. C'était presque un devoir pour les compositeurs italiens d'écrire de la musique dans le style de Corelli.
Lo fa chiaramente nella
Vivaldi
opera
le fait dans son opus 1 et son opus 2.
Le sue origini
mais sans jamais oublier ses origines vénitiennes.
Et, troviamo, sì, delle sonate che
et donc, on trouve des sonates qui apparemment y jouent un peu comme Corelli, mais dedans,
esempio,
on entend la polichoralité vénitienne.
Ci troviamo dentro lo stile dei maestri veneziani precedenti, ci sentiamo le Grenzi.
Le Grenzi.
Ovviamente, tutti i grandi compositori veneziani del Seicento, ci
on peut retrouver tous les grands compositeurs de l'école vénitienne et l'opéra de 1600. Chose
senso.
Plus difficile
Quindi,
à retrouver chez Corelli.
Un aspect théâtral, nel senso
un aspect théâtral aussi
à Corelli.
Plus développé par rapport à Corelli.
Mais surtout une idée extrêmement personnelle qui rimane chiarissima
et évidente. On retrouve chez Vivaldi une idée très personnelle
et trova poi sfogo e piena complete,
qui trouvera son épanouissement dans l'opus 3
dei suoi capolavori,
qui est son chef-d'œuvre
et qui rimanda pur nella modernità al tutto il secolo precedente
et que dans sa modernité nous renvoie au siècle précédent.
Et pour preuve, cet extrait de la Folia que Vivaldi met à la fin de son opus 1,
ah, exactement, oui.
Au même endroit.
Sì, che Corelli, esattamente. Oui.
Thank you. Italia, mais cette fois-ci d'Antonio Vivaldi et non pas de Corelli. Nous allons donc début 18e siècle de son opus 1 par vous, l'ensemble Imaginarium Enrico Onofri. Alors, on laisse de côté ces compositeurs du tout début du XVIIIe siècle pour aller un petit peu après, dans les années 1740, pour refermer ce matin des musiciens avec vous, Enrico Onofri, et surtout celui qu'on appelait le capo pazzo, c'est-à-dire la tête un petit peu folle. Je veux parler de Francesco Maria Veracini, autour duquel, sorte de figure de prima donna du violon, one god, one Veracini, c'est ce que répétaient les chroniqueurs de l'époque comme Burnet, un petit peu fou, qui aurait sauté d'une fenêtre à la suite, on ne sait pas trop de quoi.
In seguito a un cattivo scherzo di Pisendel,
suite
che era
a Dresde, che Pisendel lui avait fait à Dresde.
Il quale era estremamente geloso della bravura di Veracini,
très jaloux de Veracini
e organizza ai danni di Veracini un confronto, una sfida musicale.
Il avait organisé un défi musical.
Veracini
perd,
mais
pas honnêtement.
Veracini rimane talmente segnato
e Veracini est tellement marqué par cet épisode,
non poteva credere che qualcuno
il ne pouvait pas croire que quelqu'un pouvait le dépasser. Mais en réalité, ce n'était pas vrai.
Et si getta dalla finestra, si rompe
et
la
il
gamba.
Se jette par la fenêtre et il se casse une jambe. Et c'est pour ça qu'on l'appelle un peu tête de fou.
Alors, vous allez nous jouer justement une des sonates, sonate qu'il fait paraître d'ailleurs justement à Dresde quand il est au service d'Auguste II de Saxe, c'est son opus 2. Mais une des questions qui se pose, c'est celle de la réminiscence éventuelle ou pas d'un langage hérité des Castello que vous avez joué en début d'émission, donc 17e siècle. Est-ce que ce langage 17e siècle réapparaît chez ces compositeurs comme Veracini ou Tartini, ou alors on est vraiment passé à autre chose?
In realtà, per quanto riguarda il violino, ma non solamente per il violino.
En ce qui concerne le violon, mais pas seulement pour le violon. La relation dont on a parlé tout à l'heure entre la voix et l'instrument pour Castello, elle continue jusqu'à la période romantique.
Faccio un esempio estremo. Se noi prendiamo il trattato di violino di Joachim Moser.
Par exemple, si on prend le traité du violon di Joachim Moser.
Che è stato il violinista per il quale Brahms ha scritto il suo
celebre
concerto.
Le violoniste pour lequel Brahms a écrit son concert en ré majeur.
Per quanto riguarda la relazione, per esempio, con
des indications
la pronuncia
qui concerne la prononciation,
la prosodia,
la prosodia
e la qualità del suono che
e
sono
la qualité du
assolutamente
son
identiche a quelle dei trattati del 600-700.
Identique à celle de traité du 500-600.
Quindi il legame voce-violino in realtà non è mai venuto meno.
Entre voix et violon n'a jamais manqué. Il a toujours existé.
Ma questo naturalmente significa tantissime cose, perché dipende
cela signifie beaucoup de choses.
Da quale musica è stata scritta, da quale cantante prendiamo in considerazione.
Cela dépend du chanteur dont on parle, de la musique.
Questo naturalmente ci dice molte cose. Interessante vedere come
ce qui est intéressant
nella parte tarda del barocco, quindi
c'est de
ormai
voir comment vers la fin de la période baroque,
nell'epoca galante, quindi sostanzialmente si inverte il discorso, il violino acquista un linguaggio idiomatico suo
le
proprio,
violon acquiert un langage propre,
costruito
un langage idiomatico
sulle sue
propre,
caratteristiche anche e meccaniche,
caratteristiques techniques et mécaniques,
e diventa una specie di voce utopica.
Et cela devient comme une voix utopique.
Che può fare delle cose vocali, ma che una voce non
può
fare. Qui
peut réaliser des choses comme une voix, mais une voix ne pourra jamais le faire.
E a questo punto, forse in questi anni si inverte esattamente il discorso.
Et c'est à ce moment-là que le concept donc s'inverse complètement.
E sono i castrati che cercano di imitare le prodezze e i virtuosismi degli strumenti.
Et ce n'est plus le violon qui veut imiter la voix, mais c'est la voix qui va à la recherche du violon.
Alors vous voyez que le terme de prima donna du violon pour parler de Veracini n'est pas du tout usurpé. Et c'est vrai que dans ce qu'on va entendre justement de cette sonate en mi mineur de l'opus 2, donc numéro 8 de Veracini, il y a véritablement des passages qui font penser à des airs d'opéra, à des scènes de théâtre, de dialogue, de duo, de trio, et surtout à ces fameuses cadences que vous allez jouer, Enrico Onofri, cadence de prima donna. C'est à vous, dans le studio 118, Veracini, par l'ensemble Imaginarium, Enrico Onofri. Mmh.
Thank you.
La sonate en mi mineur, opus 2, numéro 8 de Francesco Maria Veracini, interprétée par l'ensemble Imaginarium sur France Musique dans le Matin des Musiciens, avec vous Enrico Nofri, Alessandro Palmieri et Riccardo Doni, le capo pazzo, la prima donna du violon des années 1740, et qui a un lien avec le dernier compositeur qu'on va voir, que vous avez enregistré, c'est Giuseppe Tartini, qui lui entend Veracini. En 1716, alors anecdote pour anecdote, c'est quand même l'époque début 18e où on a quand même des histoires qui sont assez certaines, quoi. Ça s'est vraiment passé. Et Tartini, qui fut tellement impressionné par Veracini, qu'il décida de tout arrêter. J'ai l'idée qu'il a paqué sa femme, enfin de se faire construire aussi un nouvel archet un petit peu plus long. Qu'est-ce qu'on sait de cette histoire, Enrico ?
Non sappiamo esattamente quanta verità c'è.
Non sait pas exactement quelle est la part de vérité.
Sappiamo
dans
che
ces
Veracini
anecdote.
Prende un certo punto, probabilmente dopo aver ascoltato Tartini,
après avoir écouté Veracini.
Dopo aver ascoltato Veracini, prende un periodo sabbatico per poter migliorare la propria
il
tecnica.
Il décide de prendre un congé sabbatique pour améliorer sa technique.
E che è tutto dire perché Tartini già aveva una tecnica
e
impressionante.
Il faut savoir que Tartini avait déjà une technique qui était
dunque ci fa pensare anche al livello impressionante che questi musicisti avevano.
Donc ces musiciens avaient un niveau vraiment poussé.
Ma forse non era solamente una questione meramente tecnica, virtuosistica.
Pas que d'une question technique.
Il vero virtuosismo comunque per tutti i grandi violinisti di tutte le epoche è stato quello di toccare i cuori delle persone.
Ce qui voulait vraiment c'était toucher le cœur des gens.
E non il circo. Il circo è qualcosa che esiste, che è piacevole, ma che non deve essere il vero scopo della di un'esecuzione.
C'était d'aller vers les gens, les toucher.
Et on revient donc à la fin en fait de ce matin les musiciens en se quittant avec le tri du diable de Tartini. À ce bouleversant concert auquel moi j'avais assisté, Enrico Nofri, c'est là qu'on s'était rencontrés d'ailleurs à Ambronay. Je ne sais pas si vous vous souvenez.
Oui, oui.
Oui. Où j'étais assis au deuxième rang, et donc à peu près 4 mètres de vous. Et quand vous parliez de ne pas faire de cirque, je vois très bien ce que vous voulez dire. Et cette idée de transe aussi, de se laisser dépasser avec cet art oratoire absolument unique du violon italien 17e, 18e siècle. Où j'avais eu l'impression, à cette époque-là, il y a un an, d'avoir en face de moi véritablement soit Tartini, soit Veracini qui jouaient.
Oh mio Dio, questo è.
Oh mon Dieu.
È un complimento veramente grande. Non credo di.
C'est un grand compliment.
Di arrivare nemmeno ai piedi di questi grandi.
Je pense que je n'arrive même pas à la cheville de ces grands artistes.
Però nel mio piccolo, è quello che tento di fare è di cercare di raggiungere nella maniera più diretta possibile il cuore dell'ascoltatore.
De toucher le cœur
cercando
des auditeurs de la façon la plus simple.
Immedesimarmi il più possibile nella musica che eseguo. Questo molto semplicemente.
En essayant de m'immerger le plus possible dans la musique.
Un grand merci à vous.
Merci
Enrico Nofri, grazie a lei, veramente.
Grazie al pubblico.
Merci a vous, Alessandro Palmieri, grazie.
Merci.
Et merci à vous, Ricardo, Donny au clavecin. Un grand merci, messieurs, de l'ensemble Imaginarium. Et on se quitte avec le Tri du Diable que vous avez enregistré de Tartini. Un extrait, la fin du Tri du Diable de Giuseppe Tartini par l'ensemble Imaginarium avec Enrico Onofri. Un chaleureux merci encore une fois au maestro Onofri. Merci à Francesca Fossatis qui a assuré la traduction. Pierrick Charles était à la prise de son et mixage. Une émission, bien sûr, réalisée par Claire Lagarde avec la préparation de Laura Jachimiak. Passez un très bon lundi à l'écoute de France Musique. Vous pouvez bien sûr écouter cette émission tranquillement, vous délecter en la réécoutant chez vous. Je vous dis à la semaine prochaine. Vive la musique, vive les musiciens. Ciao, bye bye.